C'est vraiment une façon de voyager qui vraiment t'oblige en fait à aller vers les autres, à être hors des sentiers battus en fait. Parce que même si tu vas suivre un itinéraire que tout le monde suit, même si t'es sur cet itinéraire-là, toi tu vas t'arrêter entre le point A et le point B.
Ouais.
Tu vas être obligé. Et même juste pour aller demander de l'eau, demander de l'aide, pour dormir, tu vas être obligé. Et du coup c'est juste une façon incroyable de voyager et qui fait des rencontres.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur De Vraies Vies, le podcast des voyageuses qui osent. Je suis Anastasia DeSantis et j'ai créé ce podcast pour aider celles qui, comme moi, ont envie de suivre une autre voie et sont passionnées de voyage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tiffen, qui est une vraie warrior. Mais avant de vous parler de cet épisode du jour, juste un petit mot pour vous remercier de vive voix pour votre soutien à ma campagne de crowdfunding Ulule. Grâce à votre soutien, j'ai réussi à atteindre les 100% et ça c'est vraiment génial. Je vais pouvoir investir dans du bon matériel, mais surtout je vais pouvoir emmener De Vraies Vies encore plus loin et ainsi aider les femmes à vivre leur vraie vie. Alors encore un grand merci pour votre confiance. Mais revenons à l'épisode du jour. Donc dans cet épisode, j'accueille Tiffen, qui m'a vraiment complètement inspirée et impressionnée. À 25 ans, cette badass a déjà parcouru, avec son vélo, un bout de l'Australie, l'Europe et l'Afrique. Et honnêtement, moi qui ne suis vraiment pas sportive, ça m'a carrément donné envie de me laisser tenter par cette aventure. Ça a l'air juste ouf. J'espère que vous aussi, ça vous motivera à oser vous lancer si vous avez un projet un peu similaire. Voilà, je vous laisse avec notre conversation qui va vous faire voyager très loin. Bonne écoute.
Bonjour Tiffen.
Bonjour Anastasia.
Ça va?
Oui, très bien et toi?
Très bien. Alors Tiffen, donc tu viens de Paris.
Mm-hmm.
Première question, comment est-ce que tu étais quand tu étais petite? Parce que j'ai lu quelque part que tu disais que tes parents t'emmenaient souvent en voyage, te balader un peu partout avec eux. Est-ce que t'as le voyage un peu dans le sang?
Oui, je dirais que oui. J'ai effectivement mes parents depuis que j'ai 10 ans. Je pense que c'est bon, il y a 10 ans, on a fait le premier grand voyage qui était la Malaisie.
Ah super.
Et ils m'ont emmené en fait tous les ans. Ils prenaient un mois et sur la forme de juste partir avec un billet d'avion pour quatre. On était avec mon frère. Et plutôt sous la forme sac à dos et sans rien réserver à l'avance ou juste un peu en prenant un guide du routard ou quoi pour regarder un peu ce qu'il y avait à faire. Du coup, je pense que c'est surtout ça qui m'a ouvert beaucoup de portes pour voyager, qui m'a montré d'autres cultures, d'autres façons de vivre, ce qui m'a fait d'ailleurs beaucoup aimer l'école quand j'étais petite parce que du coup, j'avais rencontré beaucoup d'enfants de mon âge dans des pays parfois qu'on dit sous-développés, qui vont pas forcément à l'école et du coup, je pense que je me suis vraiment rendu compte de la chance que j'avais d'avoir la vie que j'avais quand j'étais petite et c'est ouais, quelque chose de très positif qui m'a beaucoup formée, je pense.
Donc, ils t'ont donné goût au voyage, en fait.
Ouais, ouais.
Et à la liberté, c'est
clairement.
Bon. tu t'es formée pendant 3 ans en tant qu'éducatrice spécialisée. Et tu as décidé de partir directement à l'aventure, en fait, après ton diplôme.
Ouais.
Et pourquoi, comment ça s'est fait, en fait, pourquoi cette envie?
Alors, en fait, j'avais déjà l'envie de partir à l'étranger plus longuement pour vivre une expérience dans un autre pays, déjà pendant mes études. Et en fait je me suis dit que si je partais avant d'avoir mon diplôme, il y aurait quand même le risque que quand je revienne, si je reviens, je ne retourne pas sur les bancs de l'université et que ce soit trop dur de continuer à faire des cours théoriques. Du coup, je me suis un peu forcée à finir mon diplôme qui n'était que 3 ans et qui était quelque chose qui me plaisait quand même vachement beaucoup. Donc je me suis dit c'est pas grave, je fais ces 3 ans là.
Ouais.
En plus bon, avec toute la pression qu'il y a aussi derrière de d'avoir un diplôme et un bagage avant de partir. Et donc une fois le diplôme en poche, j'avais qu'une envie. Du coup c'était moi, c'est bon, je l'ai eu, le soulagement, ouais. Je peux partir, voilà, papa maman, j'ai quelque chose,
j'ai
des études, c'est bon, vous me laissez tranquille maintenant. Et du coup je suis partie. Je savais pas tellement où aller en fait. À la base je voulais faire un service civique à l'étranger.
Ouais.
Donc il faut un pays où on trouve un petit boulot facilement, et il faut un pays où je parle un peu la langue, justement pour trouver un boulot, et du coup, en discutant avec les gens autour, j'ai choisi l'Australie, qui m'était jamais venue à l'esprit avant, et je me suis dit, ah bah oui, pourquoi pas. Donc je suis un peu partie comme ça, en me disant, bon bah on verra bien ce qui se passe là-bas, et puis dans le pire des cas, je rentre et puis j'aurais pas perdu grand-chose à part un billet d'avion.
Et qu'est-ce que ça a été la réaction de ton entourage quand t'as annoncé, ben là, ok, j'ai fait mon diplôme, mais j'ai pas envie de chercher un boulot tout de suite, je vais plutôt partir en Australie.
Là, ça a été parce que je leur ai dit que je partais un an, donc j'avais un visa vacances-travail, et ouais. Du coup... je pense que dans leur esprit, ils avaient que bah, dans un an, je rentre. Je suis éducatrice spécialisée et j'ai quand même les perspectives de carrière, de famille, de maison, qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui, qui ne l'ont jamais été. Mais je pense qu'à ce moment-là, ils se sont dit « Ah bah très bien, effectivement, c'est le bon moment, ça doit être une bonne expérience de faire ça à l'étranger, elle va rentrer. » Et puis, elle se sera dit « Ah bah on est bien en France, elle va revenir. » Ce qui ne s'est pas passé. Mais je pense qu'ils ont été très soutenants. Et puis mes parents, comme ce sont des grands voyageurs, ils étaient tout de suite contents parce qu'ils n'ont jamais été en Australie. Ils ont dit « Ah bah très bien, on va pouvoir venir te voir et faire un voyage de plus ensemble. » Et du coup, ils étaient contents de la destination. Ils avaient leur billet presque en même temps que moi.
Ah ouais, ça c'est cool.
Pour venir 4 mois plus tard. Donc,
quand tes parents te soutiennent.
Ouais, là-dessus, ouais. Après, plus tard, il y a eu d'autres moments où quand ils se sont rendus compte que bah, finalement, c'était peut-être une façon de vivre, de voyager, travailler, voyager. Où ils se sont dit « Ah mince, en fait, elle fait pas du tout EDUXP, elle a pas un boulot carrière. » Et je pense que bon, là, ça a été un peu plus de questionnement, mais pourquoi tu fais des études ?
Ouais. Donc tu décides de partir un an en Australie, donc en visa vacances-travail.
Oui, exactement.
Qu'est-ce que t'as fait comme petit boulot là-bas et qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience ?
Alors, je suis arrivée là-bas, je suis arrivée à Melbourne, où je suis restée un mois dans une famille, un peu comme fille au père, en fait, via le site Helpix.
Ouais.
Donc, travailler pour l'hébergement et la nourriture pendant un mois, ce qui m'a permis quand même de prendre quelques marques, de me faire un peu au pays et de voir ce que j'avais envie de faire. Et ensuite, j'ai travaillé 3 mois dans un glacier. Où c'était peu
cool,
c'était pas compliqué, il y avait pas de pression, c'était pas ultra bien payé, mais pour l'Australie quand même plutôt bien. Et du coup, enfin de toute façon, l'objectif c'était vraiment juste faire l'argent nécessaire pour ensuite explorer le pays. C'est là-bas que j'ai découvert le voyage à vélo. Je ne savais pas en fait exactement. Une fois que j'étais toute seule, je savais pas vraiment comment explorer le pays. J'avais envie que l'argent que j'avais fait à Melbourne me reste. Pour mon année en Australie, et du coup j'avais pas du tout envie d'acheter un van, j'aime pas conduire, j'étais toute seule, et en fait je suis tombée par hasard sur le blog d'un mec qui avait fait l'Australie à vélo, et quand j'ai vu ça...
C'est un grand pays quand même.
Oui, je me suis dit, bah, il est complètement malade, mais ça me fait complètement rêver, et en fait j'avais jamais pensé, ça m'avait jamais traversé l'esprit, j'avais jamais entendu parler de cette manière de voyager. Et je me suis dit, mais bah, c'est le moment ou jamais d'essayer.
Sérieux.
Du coup, bah, j'avais ça qui me cogitait depuis Melbourne. Et donc, j'avais des projets avec mes parents, mon ami, etc. Et donc, après, j'avais un billet pour l'Australie de l'Ouest, pour Perth. Et donc là-bas, Perth, j'ai acheté un vélo, j'ai acheté le matos qu'il fallait. Mais j'étais à ce moment-là, en fait, quelques semaines avant, j'ai un mec que j'ai rencontré sur la côte Est qui me dit « Ah, ah bah comment ça va, qu'est-ce que tu fais en ce moment, c'est quoi tes projets ?» Donc je lui ai parlé de ce périple à vélo que j'étais en train de programmer, et il me dit « Ah bah génial, est-ce que je peux venir ?»
Ah génial.
Bon, en fait à la base je m'étais jamais dit bah, « Je vais trouver quelqu'un », parce que je me suis dit « Je vais pas trouver quelqu'un, je vais le faire, je l'avais tout le temps imaginé toute seule ». Et puis après, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas en fait avec quelqu'un. C'est vrai que bah, forcément il y a quand même un peu d'appréhension, je me dis « Bon bah ça fait quand même moins peur, mais pour tout le monde aussi, parce qu'à la maison, ça commençait à s'inquiéter un peu plus que juste être en Australie et de travailler. Et du coup, je dis, bah, vas-y, viens, il est venu, on a fait les 10 premiers jours ensemble, et en fait, ça s'est pas très bien passé, dans le sens où, bah, on se connaissait pas bien, on n'a pas du tout parlé du voyage.
Comment vous l'imaginiez?
Voilà, ouais. Comme on l'imaginait. Moi, je l'avais monté vraiment dans ma tête, pour moi-même, etc. On n'a pas parlé du nombre de kilomètres, du budget, de... Enfin, c'était... Voilà, on n'a parlé de rien. Et du coup, ça a été compliqué parce que lui allait plus vite. Du coup, moi, j'étais frustrée parce que lui, il allait trop vite et que bah, moi, je voulais m'arrêter plus souvent, etc. Et puis, bah, d'être à deux avec quelqu'un avec qui ça colle pas, c'était quand même pas du tout la même chose que de faire une expérience tout seul. Et donc, un beau matin, qui était le jour de mon anniversaire, je m'en souviens bien.
Il se passe plein de choses le jour de ton anniversaire.
Je pense qu'il avait un peu oublié que c'était mon anniversaire, c'est pas grave. Ah, ouais. On avait pédalé... on venait de passer une grande ville la veille, on avait pédalé une journée, on avait bivouaqué, et puis le matin il se lève, il me dit bon bah en fait moi je repars dans l'autre sens, à la grande ville, parce que j'en ai marre, ça me saoule, Voilà. Donc on prend le petit déj tous les deux ensemble, un peu tendu. Je me dis, est-ce qu'il va vraiment le faire? Il est vraiment sérieux là? Il va vraiment repartir dans l'autre sens, me laisser toute seule? Alors en plus, on avait eu un peu le malheur d'acheter des trucs à deux, la tente, la carte, enfin des trucs. Il m'a dit, non mais tu peux tout garder, il n'y a pas de problème, etc. Donc voilà, j'ai eu le petit déjeuner pour réfléchir. Enfin bon, j'avais pas 36 solutions. Bah, c'était soit je repartais dans l'autre sens avec lui, mais ce qui était complètement inenvisageable pour moi. Soit je continuais jusqu'à Espérance, qui était ma ville objectif. J'ai continué toute seule, et là vraiment ça a été une révélation. Ah ouais. Je dirais pas que les premières minutes ou la première heure a été assez compliquée, un peu stressante, parce que bah on se retrouve tout seul, et comment ça va se passer maintenant, etc. Mais en même temps, il y a personne qui m'attend. Je peux m'arrêter quand je veux, où je veux, je peux faire ce que je veux. Enfin, c'était juste une liberté, une indépendance, mais tellement incroyable que je me suis dit, mais heureusement, enfin, je l'ai un peu remercié d'être partie. J'avoue que le soir, quand j'étais toute seule à fêter mon anniversaire, je me suis dit, c'est un peu triste, mais au final, il m'a fait un cadeau merveilleux, et je me suis dit, mais heureusement, et aujourd'hui, je me dis, c'était beaucoup mieux comme ça, quoi.
Et t'as jamais eu peur pendant ce voyage en Australie, où tu t'es dit, oh mon Dieu, je suis toute seule dans la pampa, avec ma tante? Non, tu dormais dans ta tente, c'est ça?
Ouais, je dormais dans ma tente. Ouais, il y avait pas 36 choix, parce qu'en fait, même si tu voulais dormir dans de village en village ou de ville en ville, les distances sans rien sont tellement longues qu'à vélo tu peux pas les couvrir. Donc et puis moi j'avais l'objectif de bivouaquer un peu partout. Donc si forcément la première nuit tu as du mal à dormir, c'est clair, parce qu'en fait on a toutes les peurs juste qu'on nous a inculquées, quoi, parce que c'est la nuit, parce que tous les films d'horreur c'est passé la nuit, parce que personne sait que je suis là, et si j'ai un problème, mais pourquoi il y aurait un problème plus la nuit que le jour, enfin,
ou un serpent.
Un serpent, mais t'es dans la tente, il va pas faire un trou sur la tente ou quoi. L'araignée, c'est pareil. Enfin, j'ai pas dormi à même le sol non plus. J'avais une tente, donc et puis en fait après une journée de vélo, t'es quand même bien fatiguée même si t'as peur, tu finis par t'endormir. Alors tu dors sur une oreille, donc c'est vrai que la première semaine, le temps de s'habituer, c'est que la fatigue s'accumule. Mais en fait, tu fais une nuit. Il se passe rien, personne sait que t'es là, personne va venir te chercher. Enfin, ça, c'est dans les films que quelqu'un va venir te tuer, et personne savait que j'ai dormi ici. De toute façon, c'était un de mes critères pour choisir mon spot de bivouac, c'est d'être caché de la route.
Ouais.
Et de juste de pas être vu, et pas être, devant une station service où t'as tous les gens qui vont passer prendre de l'essence et qui vont se demander, qui est là-dedans et qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Donc, après, en fait, c'est une question d'habitude. Et en fait, on apprend aussi à s'habituer au bruit de la nuit, parce qu'il y a quand même forcément un peu de vent, des trucs qui font craquer, des choses. Au début, on se dit, oh là là, mais il y a quelqu'un, enfin.
Il y a un ours.
Non, mais en Australie, déjà, il risque pas, mais voilà. Et du coup, on s'habitue. C'est juste tout est une question d'habitude. Et après, quand je suis repartie en Europe, je dormais bien, quoi.
Tu m'étonnes.
Donc, ça valait le coup, quoi. C'est juste une telle liberté de pouvoir s'arrêter où on veut, quand on veut, et de pas se dire, il faut que j'atteigne ce camping, ou il faut que j'atteigne cette ville, ou que je fasse ci, ou machin. Bah non, en fait, moi, si je suis fatiguée, s'il pleut, si ça me saoule, je pose ma tente, j'ai un toit, et je m'arrête, et puis c'est bon. J'en ai fini, mais...
Trop bien. Et comment ça s'est passé, justement, ton retour à Paris, après cette expérience de fou?
Très compliqué. Très très compliqué, parce que j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de gens qui ont des vies différentes, qui voyagent, et qui voyagent toute leur vie, quoi. Je suis rentrée à Paris et je me suis rendu compte que j'avais plein de portes qui s'étaient ouvertes devant moi, mais des portes que je connaissais même pas, en fait. Je savais même pas qu'elles étaient fermées, je savais même pas qu'il y en avait, et qui se sont ouvertes comme ça, mais il fallait quand même y aller un peu, et en même temps, j'avais de l'autre côté, tout le monde qui me demandait, tu vas faire quoi maintenant, et tu vas trouver quoi comme travail, tu vas retourner dans le moule quand t'avais créé, et du coup, et tous les gens qui te questionnent, alors que toi, tu ne sais même pas, et que le questionnement est déjà douloureux pour toi, parce qu'effectivement, concrètement, j'étais complètement perdue. J'étais dans cette société dans laquelle je me retrouvais pas. Enfin, je vivais quand même juste avec un vélo, une tente, à juste trouver de l'eau et à manger, et avoir le petit plaisir tous les 3-4 jours d'avoir une douche. Et là, je me retrouve dans Paris avec tout ce truc de consommation, où enfin c'était ultra compliqué. Alors effectivement je suis revenue, j'avais plus trop de sous, donc bon, le truc le plus facile à faire c'était juste de travailler parce que mes parents habitent à Paris, donc j'avais un toit, j'ai rapidement trouvé un travail. Et puis,
pas d'EduxP du coup
parce que effectivement l'EduxP ça demande quand même une énergie mentale assez importante, que j'avais juste besoin de prendre du recul sur ma vie, j'avais besoin de comprendre ce que j'avais vraiment envie de faire, et l'EduxP non, ça m'est pas venu à l'esprit, je voulais vraiment quelque chose de léger on va dire. Donc du coup j'ai travaillé dans une boutique en tant que vendeuse de chocolat qui m'allait très très bien, et mais voilà, en fait on passe le temps pour essayer de pas se poser les questions et pour avoir quelque chose à répondre aux gens qui disent « Ah bah maintenant, tu fais quoi ?»« Bah voilà, je fais ça. » Mais en fait, t'es dans cette quête de sens où t'es là « Bah en fait, je suis là, d'accord, mais pour moi, ça n'a pas de sens. » Et du coup, j'avais qu'une envie, c'était de repartir. Et en Australie, comme j'avais eu un peu cette première expérience de voyage à vélo, où je m'étais dit, mais attends, en Europe, en faisant 2000 km, mais j'aurais déjà traversé 3-4 pays différents.
Tu avais fait 2000 km en Australie,
ouais, c'est ça. C'est vrai que sur l'Australie, 2000 km, c'est absolument ridicule. Mais en Europe, tu le transposes et tu te dis, ah, mais ouais. Et puis, c'est vrai que je revenais de l'autre bout du monde et je me suis dit, bon, j'ai quand même pas été voir ce qu'il y avait à côté de moi. C'est un peu dommage.
Ouais.
Du coup, j'ai travaillé 5 mois sur Paris. J'ai racheté un vélo parce que je l'avais revendu là-bas. Et j'ai fait des sacoches et pareil, je suis partie. Sans grand projet, en fait. J'avais vraiment juste... Voilà, j'étais perdue. Je me suis dit, je sais pas pourquoi je le fais, mais je sens qu'il faut que je le fasse. J'ai envie de le faire. Et ça, pour moi, je le ressens comme... il faut que je le fasse. Et c'était difficile à expliquer. Hein, et du coup, j'avais juste comme premier objectif d'aller à Stockholm. Parce que, en fait, je suis partie en juin, et donc ça allait être l'été. Donc, en fait, avec les saisons, j'avais pas envie de me retrouver en Espagne sous 50 degrés en été. La Scandinavie, c'est des grands espaces verts, c'est la nature, ça me va très bien. Donc, je me suis dit, bon, allons-y. Allons vers Stockholm, et puis après, on verra ce qui se passe. Et en fait, tout le voyage s'est fait comme ça.
Du coup, tu décides de partir le jour de ton anniversaire, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'était très symbolique, mais j'ai envie de me faire ce cadeau.
Et comment est-ce que t'as préparé ton voyage en amont, en fait? Tu l'as préparé, d'ailleurs, ou...
pas vraiment, non. Donc, je connaissais un peu déjà les bases, mais du voyage à vélo, d'avoir une tente, d'être autonome, etc. Et préparer, non, pas vraiment. Ça s'est fait très rapidement parce qu'en fait, je savais que j'avais envie de partir, pendant que je travaillais à Paris, mais je savais pas quand, parce que j'avais pas de date précise. En fait, à l'époque, j'avais un copain sur Paris, on s'est quitté, et du coup, je me suis dit, c'est le moment, parce que bon, j'avais déjà pas grand chose à faire à Paris, mais là encore moins. Et puis, du coup, ça s'est fait très rapidement, parce que j'avais envie de partir au plus vite, du coup, parce que j'ai démissionné, donc, après, j'avais plus rien à faire, donc, c'était encore plus difficile. Et puis, je me suis dit que l'Europe, ça allait être facile, que j'allais juste le vivre au gré des événements, etc. Donc, préparé, pas vraiment. Alors forcément, j'ai dû acheter du matériel, donc forcément, on regarde un peu les vélos, on regarde les sacoches, machin. Et puis, bon, c'est tout.
T'étais sportive avant, parce que tu dis... t'as fait du vélo en Australie, quand même.
Non, pas du tout. Sportive, je suis pas particulièrement sportive. Enfin, je veux dire, je peux aller courir, et je sais courir, mais je le fais pas régulièrement. Le vélo, ça a jamais été plus que juste faire du Vélib dans Paris pour se déplacer. Et non, mais en fait, comme je dis maintenant, c'est vraiment... tout le monde peut le faire, quoi. C'est-à-dire que si tu sais faire 10 km à vélo et que t'as envie dans ta tête et que t'es motivé pour en faire plus, tu peux, quoi. Ça n'a rien de physique, en fait.
Ah ouais.
Parce que vraiment, ton corps s'adapte. Alors, tu manges un peu plus, hein, faut s'habituer à ça. Donc, faut prévoir double portion, mais sinon c'est quelque chose qui est donné à tout le monde, et ça de bien que si t'as ta tente et que aujourd'hui t'as envie de faire 50 km, t'en fais que 50. Si demain t'as envie d'en faire 100 ou 30, tu fais ce que tu veux. Et tu vas à ton rythme, quoi. Donc effectivement, il y a des gens qui voyagent à vélo et qui font 150 bornes par jour, il y en a qui en font 40, et puis c'est tout, quoi. Il y a pas de compétition de toute façon. Donc
t'avais pas de date fixe d'arrivée à Stockholm, quoi. Tu t'es dit, je pars et puis on verra.
Exactement. Et la seule chose, effectivement, à prendre en compte à vélo, c'est les saisons, la météo, parce qu'en fait, tu es dehors toute la journée et après tu vas camper. Et donc, en fait, le climat, les saisons sont tellement importants qu'il faut prévoir un peu. Donc, effectivement, si je mettais 6 mois pour arriver à Stockholm, ben, après, j'allais arriver dans la neige. Donc, après, c'est possible. Hein, je connais maintenant des gens qui voyagent à vélo en hiver dans des régions froides sous la neige. Mais c'est juste qu'après, il faut des pneus adaptés, il faut un sac de couchage adapté, il faut des trucs, c'est tout. Il faut juste s'adapter. Mais,
Justement, c'est une de mes questions parce que donc, t'as parcouru au final. Donc, au début, tu dis je vais juste aller à Stockholm, mais au final, t'as parcouru 20 000 km pendant 14 mois. Donc, tu as commencé par l'Europe, puis après, t'es parti en Afrique. On va en reparler après. C'est comme dingue. Voilà. Et t'as parcouru notamment 27 pays en Europe, donc durant l'été, l'automne, l'hiver, au soleil et sous la pluie, j'imagine.
Oui, la pluie, quand même.
La neige aussi.
La neige, c'est ce qui m'a fait arrêter.
Ok.
En fait. Et c'est la raison pour laquelle je suis partie en Afrique. Donc, en fait, pour retracer un peu le parcours, donc voilà, je suis partie début juin. Donc, pour Stockholm. Ensuite, j'ai remonté la Suède pour aller jusqu'en Finlande. Donc, tout ça, c'était en juillet-août.
Donc, tu passes par Belgique,
Allemagne, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède.
Ouais.
Donc, j'arrive en Suède mi-juillet. Et puis après, juillet-août, Suède-Finlande. Donc, la météo, plutôt bien. Et après, je veux continuer à pédaler. Je sais que, on est en août. Donc après, l'automne va quand même arriver. Donc j'anticipe un peu ça. Je me dis, il faut retourner au sud, quoi. Donc là, de Helsinki, je me fixe l'objectif d'aller vers la Grèce. Qui me paraît même moi un objectif un peu surévalué, un peu, oula, c'est juste un objectif. Je suis pas obligée de l'atteindre. Je veux pas trop me mettre de pression parce que ça me paraît super loin.
C'est combien de kilomètres, tu sais?
Non, je sais pas, mais je suis arrivée en Grèce en octobre, novembre, enfin c'est pas
donc deux mois.
L'Europe c'est petit, en fait on est toujours fauté par
dingue.
Nos cartes, par nos cartes qui sont toujours avec l'Europe qui est au centre et qui est un peu surdimensionnée, mais en fait l'Europe c'est pas si grand que ça. Donc là voilà, je traverse les Pays-Baltes, la Pologne, Slovaquie, Hongrie, les Balkans, donc Serbie, pour arriver en Grèce. Et voilà, j'arrive en Grèce, je me suis dit, oui, ça y est, je suis au sud, quoi, c'est pas mal. Et puis donc là, on est en novembre, et puis je me dis, j'ai envie de continuer quand même, parce qu'en fait, au fil du temps, tu rencontres du coup plein de voyageurs à vélo, parce qu'il y a un réseau, en fait, qui est l'équivalent de couchsurfing, mais que pour les cyclistes, qui s'appelle Warm Shower. Le concept, c'est justement de poser ta tente dans le jardin des gens et d'avoir accès à une douche chaude et la cuisine. Alors
trop
maintenant,
bien.
Souvent les gens, la plupart du temps, ont un canapé
aussi,
ou enfin voilà, tu peux être à l'intérieur. Mais à la base, le principe de ce site à la base, c'est ça. Et du coup, ce qui fait que tu rencontres plein de voyageurs à vélo qui ont fait des trucs complètement fous. Donc d'un seul coup, ton voyage paraît tout petit.
Ouais.
Tu te dis mais en fait, il y a plein de trucs à faire autres que juste entre guillemets l'Europe. Et en fait, ça te donne des idées beaucoup plus grandes. Et du coup, en Grèce, ça cogitait déjà, mais je me suis dit, maintenant, il va faire froid partout en Europe. Je n'ai pas l'équipement pour, parce que c'est possible de faire du vélo en Europe.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, c'est peut-être l'occasion de rentrer?
Ah non, non, sûrement pas. Là, c'est l'occasion d'aller plus loin. T'as toute la motivation, t'es parti, t'as ton rythme, ça t'a encore ouvert plein de choses, et t'as rencontré plein de gens qui faisaient des voyages, des années, etc. Que tu te dis ce serait vraiment bête de s'arrêter là maintenant, quoi. Pourquoi? Donc c'est là que je me dis, il faut falloir que je change de continent parce que moi j'ai pas envie d'investir dans un équipement pour l'hiver parce que c'est cher, enfin un bon sac de couchage, un bon vélo et des pneus à neige. Enfin, je me dis autant aller ailleurs. J'avais déjà été en Afrique avec mes parents quand j'étais plus jeune et c'est vrai que c'est un des continents, c'est le continent je pense que j'aime le plus de ce que j'en avais vu en tout cas et puis surtout j'avais pas envie de prendre d'avion.
Ah ouais.
Et traverser pour aller en Asie t'as quand même pas mal de montagnes. Enfin le plus simple c'était quand même l'Afrique avec juste le ferry du sud de la France jusqu'au Maroc.
Ouais.
Donc voilà, je suis arrivée en Grèce, j'ai remonté la côte adriatique pour aller dans le sud de la France, retrouver ma famille pour Noël, et ensuite j'ai pris le ferry de Sète, pas très loin de Marseille, jusqu'à Tanger au Maroc.
D'accord.
Pour l'Afrique.
Alors attends, à ce moment-là, tu dis donc à tes parents, je vais faire un tour de vélo en Afrique.
Ouais. Alors là, c'est compliqué. Ouais, l'Europe, ça va. L'Europe, ça va. Il y a maintenant avec le réseau téléphonique en plus, on peut appeler gratuitement de partout. Donc, enfin, c'est quand même.
Bon, voilà, j'ai pas internet.
J'ai pas internet, mais quand même, juste pouvoir téléphoner, d'envoyer un message tout le temps et de te. Et je veux dire, en un coup de bus, un coup de train, un coup de je sais pas quoi, t'es rentré en, je sais pas, en moins de 10 heures. T'es pas très loin quand même. Donc, je pense que. Bon, même si effectivement d'imaginer sa fille seule sur un vélo à camper un peu n'importe où, c'est déjà pas évident, mais ça reste l'Europe. Donc quand j'annonce l'Afrique, là, je pense qu'ils tombent un peu de haut. Ils se disent non, elle est pas sérieuse, ça doit être juste un peu une idée comme ça, va pas le faire. Donc au début, ils se disent bon, ok, elle veut continuer à pédaler, l'Europe ça la saoule. Bon alors, pourquoi t'irais pas au Canada? Ça va être super sympa le Canada. Oh, ou alors l'Asie du Sud-Est, tu sais, on mange bien là-bas, il fait beau. Enfin bref, ils essaient de me donner d'autres pistes me disant et après en me disant clairement que ben non, enfin l'Afrique, Tiffaine sur un vélo toute seule, non, c'est ça va pas être possible quoi. Chose à laquelle j'étais un peu refroidie parce qu'effectivement j'ai toujours été soutenue par mes parents et là j'étais confrontée à bah d'accord, ils ont pas envie que j'y aille, ils me soutiennent pas là-dessus et moi j'ai quand même très envie d'y aller et j'ai quand même entendu beaucoup de voyageurs à vélo, ceux qui avaient été en Afrique, bah, qui me disaient mais n'écoute pas ceux qui disent de pas y aller, c'est des clichés, c'est pas aussi horrible qu'on l'entend dans les médias, etc. Donc j'étais un peu tiraillée entre ces gens que bah finalement c'était devenu des gens que je me disais mais oui ils ont réussi à le faire, pourquoi pas moi, et donc qui avait une légitimité pour moi énorme, mais de l'autre côté mes parents, ma famille, etc., qui me disaient tous mais non c'est inconscient. Et du coup tu te dis mais oui, alors est-ce que je vais prendre ces risques là juste pour le plaisir de voyager, est-ce que ça vaut le coup? Enfin c'était assez compliqué et puis au final on a trouvé le compromis, mes parents m'ont dit ils savent très bien que je suis têtue et que j'allais le faire, et ils se sont dit mais Tiffaine, pourquoi est-ce que tu trouverais pas quelqu'un pour partir avec? Je leur ai dit bah écoutez moi en soi l'idée me déplaît pas, mais je peux pas juste aller en bas de la rue et dire hello, qui veut venir voyager avec moi à vélo en Afrique quoi. Sachant en plus mon expérience en Australie avec ce premier mec qui avait pas très bien marché, j'étais quand même pas ultra chaude de refaire les mêmes erreurs, donc c'est un peu compliqué. Et puis effectivement, y a ce réseau Warm Shower qui est aussi sur lequel il y a aussi des forums où on parle justement de la sécurité, toutes les actualités des pays traversés à vélo. Et c'est là que j'ai fait la rencontre, la connaissance, un peu virtuelle d'abord, donc de Martin. Qui est un cycliste allemand,
Martin,
pardon, parce qu'il est allemand, qui aussi allait du Maroc au Sénégal en passant par le Sahara, donc
qui a eu comme projet d'aller, c'est ça?
Voilà, exactement. Okay, ouais. Qui a eu comme projet d'aller là-bas et comme moi, et du coup je me suis dit bon bah écoute, donc là on s'est beaucoup plus parlé même avant de se rencontrer, on était en contact à peu près 2 mois avant la vraie rencontre. Et pour se dire bah, et donc lui aussi voyageait depuis 6-7 mois en Europe tout seul. À bivouaquer un peu partout, avec à peu près le même budget, avec à peu près les mêmes kilomètres. Donc déjà, il y avait un peu, sur le papier, quelque chose qui match, parce que, on a à peu près la même façon de voyager, ce qui est déjà très important. Après, ça veut pas dire qu'on va s'entendre humainement, mais ça aide quand même. Et donc, on s'est retrouvés un 30 décembre au Maroc, à Tanger. Et puis,
c'est là où vous êtes rencontrés, du coup, pour la première fois?
C'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Vraiment, c'était juste ça passe ou ça casse. Puis, on était tous les deux ultra motivés. Et en fait, le lendemain, c'était le réveillon du nouvel an. Mais on était tous les deux d'accord pour bivouaquer quelque part et juste être sur les vélos, sur la route. Et du coup, on était le premier jour, on s'est dit, bon, on a les mêmes envies. On était vraiment motivés d'être sur un nouveau continent. Et voilà, après, je dirais pas que la suite, tout a été très rose parce que... quand même de passer d'un quotidien de 7 mois seul, effectivement, où t'as cette autonomie, cette liberté de faire tout toute seule, à être 24 heures sur 24 avec la même personne, la même tête, et dans des conditions souvent un peu compliquées où effectivement tu manges un peu toujours la même chose, tu sais pas trop quand est-ce que tu vas te ravitailler, t'es fatigué, t'as chaud, t'as soif, t'as pas de douche, t'es sale. Donc en fait, tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas d'avant. Dans les pires situations quoi. Et donc il y a eu quand même pas mal de clash, mais finalement ça a assez bien marché, assez bien fonctionné pour qu'on puisse quand même continuer le voyage ensemble et finalement faire 7 mois en Afrique ensemble.
Et où est-ce que vous dormiez? Donc vous dormiez aussi dans des tentes là dans le Sahara, dans la rue.
Alors le Sahara, pour se ravitailler, on avait trouvé un blog d'un cycle voyageur comme ça qui était vraiment, enfin le meilleur blog pour nous parce que en fait il avait marqué. Ce qu'il y avait sur cette portion du Sahara, sur cette traversée, exactement à quelques kilomètres il y avait soit une station-service ou une petite épicerie ou un village.
Trop bien.
Mais finalement, c'est quand même, il faut savoir que c'est le Sahara, certes, il n'y a pas grand-chose. Ça reste quand même une route goudronnée où il y a quand même des camions, des voitures qui passent. Alors après, certains jours, plus ou moins. Mais il y a quand même des petits villages. Donc tu trouves quand même assez facilement de l'eau et à manger. Alors après, à manger, pas forcément des produits frais, donc forcément tu manges un peu tout le temps des pâtes et des conserves, mais bon, ça c'est pas grave. Et après, pour dormir, oui, on avait la tente. Après, dans le Sahara, comme il y a eu quand même... donc le Sahara, c'est le Maroc, ou Sahara occidental, et après c'est une portion sur la Mauritanie. Et en fait, il y a eu quand même des enlèvements ou des choses qui se sont passées, c'est quand même une zone assez tendue. Et de ce fait, les autorités, ils font très attention aux touristes. Et du coup, en fait, tous les jours, on passait des checkpoints, gendarmerie.
D'accord.
Il fallait qu'on donne notre passeport, ils prenaient nos coordonnées, ils nous demandaient où on allait, où est-ce qu'on comptait dormir ce soir. Et en fait, c'est plus ou moins interdit de dormir où tu veux.
Ouais.
Donc, ils te laissent la possibilité de dormir à côté de leur checkpoint. Tu peux dormir à une station-service, dans un village. Il y a aussi beaucoup de cabanes de gardes côtiers. En fait, ils gardent toutes les côtes. Parce que
d'accord.
En fait, t'es pas loin de la mer, surtout sur la portion Sahara occidentale. Après, quand t'es en Mauritanie, la route va plus dans les terres, donc tu vois plus la mer. Mais donc, en fait, t'as quand même la possibilité de t'arrêter là où il y a un peu de civilisation. Et en fait, t'as pas trop le choix de dormir où tu veux.
Ouais.
Par exemple, une fois, on est arrivé dans un petit village comme ça, et on a demandé au gars si on pouvait mettre notre tente à côté de sa cabane, et il nous a fait appeler la police tout de suite. Il faut dire où vous êtes, quoi.
Ah ouais.
Donc on a juste dit, on dort là. Ah d'accord, vous dormez là, très bien. Bah nous, le checkpoint, il est à 20 km, donc on vous voit demain matin passer, etc.
Ouais.
D'une gentillesse. Ouais. En fait, je pense qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils foutent là sur leur vélo, les pauvres.
Ouais.
En plus, t'as un peu cette image d'être blanc, d'être occidental et de pas avoir l'argent. Ils pensent qu'on n'a pas l'argent pour acheter une voiture. C'est vrai, mais enfin, c'est pas la raison pour laquelle on voyage à vélo. Mm-hmm. Mais on a eu des fois aussi des gens qui s'arrêtaient avec leur voiture et qui pour nous donner de l'eau plusieurs fois et juste des fois pour discuter. Une fois on était arrêté près d'un village, il y a un groupe de Mauritaniens qui a été à l'épicerie d'à côté acheter des gâteaux, de l'eau, etc. pour nous à l'épicerie.
Ah ouais.
Enfin, ouais, ils ont rien, mais surtout en Mauritanie, hein, parce que le Sahara du côté Maroc et le Sahara du côté Mauritanie, c'est quand même pas du tout la même chose. Et quand tu passes en Mauritanie, dans les épiceries, il n'y a plus rien, quoi. Alors, t'as du lait de chameau. De temps en temps, tu trouves du pain, t'es content. Mais généralement, c'est des biscuits ultra sucrés qui sont périmés depuis un an, mais qui ne te nourrissent pas du tout.
Vous avez eu l'occasion de dormir chez les habitants, justement ?
Pas vraiment. Enfin, j'ai une anecdote drôle, parce que souvent, tu t'arrêtes à une station-service ou à côté d'une cabane, mais tu mets ta tente et ils voient très bien que tu mets ta tente et que, bah, voilà. Puis quand c'est à côté des militaires, pareil, t'es dans la tente. Et juste une fois, on est arrivé comme ça, voir un garde côtier qui est un militaire et qui, on a dit, est-ce qu'on peut mettre la tente là? Sauf qu'il y avait un vent terrible. Et du coup, nous dire, bah, venez, une petite cabane de pêcheurs, ils sont partis, les pêcheurs, vous pouvez vous mettre dedans, quoi.
Trop
donc,
sympa.
Trop bien, on se met dans la cabane de pêcheurs, on en fait comme chez nous, machin. Et puis, je sais pas, une heure plus tard, t'as une voiture qui arrive, on se dit, oh, putain, une voiture. Parce qu'il n'y en a pas 36, parce que là, t'es plus sur la route principale, t'es quand même à un kilomètre ou deux. Et on entend une voiture, on se dit, bah, c'est qui ça? Et bah, c'est qui ça? C'est les pêcheurs, en fait.
Ils reviennent.
Putain, merde, on est un peu chez eux. Genre,
ah, oui.
On s'est dit, on va se faire jeter dehors. Et puis, c'était les pêcheurs avec le militaire, donc heureusement qu'il a dû leur dire qu'il y avait... deux intrus, et en fait, ils ont été mais tellement gentils à dire, ah bah non, restez là, c'est pas grave, nous on va dormir ailleurs, et tout. On dit, mais hors de question, enfin, vous devriez être en col, enfin, tu vois, dans notre culture et dans ce qu'on attendait, on se disait, mais...
Ils vont vous virer, quoi.
Voilà, ils vont vous virer, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ils vont être en colère, quoi. Et en fait, pas du tout, ils étaient super contents de nous accueillir, et ils se sont dit, ah bah, on va dormir à côté, on a dit, bah non, et puis bon, il y avait assez de place pour tout le monde, donc on a tous dormi dans la même pièce. Ils nous ont quand même mis un drap au milieu de la pièce pour séparer notre intimité et tout, mais enfin voilà. Et puis le lendemain, offert le thé, etc. Enfin, c'était des moments, c'est magique, mais...
Et du coup, qu'est-ce que ça fait de pédaler en Afrique? Parce que j'imagine qu'il y a la chaleur, ça doit être plus difficile.
Ouais, alors c'est plus difficile, c'est sûr. La chaleur, nous, on l'a rencontré la chaleur que après le Sénégal, enfin ouais. À partir du Sénégal, parce qu'on était justement en fait à la bonne période dans le Sahara, ce qui fait que la journée il faisait 20-25 degrés, mais la nuit, les nuits sont fraîches en fait. C'est quand même le désert, donc les nuits sont fraîches et les journées sont agréables à pédaler. Après le Sénégal, on était en Guinée-Bissau, en Gambie, et là on avait du 45-50 degrés tous les jours. Et là, c'était juste de la pure torture. Et surtout, en fait, c'est des pays qui n'avaient pas beaucoup d'infrastructures touristiques. Il n'y a pas beaucoup d'électricité en Guinée-Bissau, il n'y avait rien. Donc, impossible de trouver juste un frigo, une boisson fraîche, ou tu sais, genre une petite glace, ou quelque chose pour te faire plaisir, en fait. Parce que non seulement tu douilles avec la chaleur, mais en plus, t'as pas un petit resto, un petit café mignon pour te récompenser de ta journée. Et c'est ce qui nous a fait, du coup, basculer à l'Est.
Vous avez changé d'itinéraire, du coup.
Ouais, on a changé d'itinéraire parce que, bah, ça allait être comme ça tout le long et on était pas là à la bonne saison, en fait. Et du coup, on a pris un avion, malheureusement, mais effectivement, quand on est en Afrique, il y a un moment donné où, avec tous les conflits qu'il y a quand même au centre, même si tu veux, par exemple, si tu voulais aller en Afrique du Sud en venant du Sénégal, il va falloir que tu passes le Nigeria ou, enfin, des pays qui sont quand même pas ultra recommandés. Alors, il y en a qui le font, mais moi, je voulais pas prendre ces risques-là. Donc, du coup, contre notre gré, on a pris un avion, mais.
Avec les vélos, du coup.
Avec les vélos, et on est passé au Kenya. Et donc l'Afrique de l'Est, qui était en fait finalement un peu plus touristique et donc plus agréable à pédaler, des routes un peu meilleures, et encore. mais bon, c'était un peu la fin de la saison des pluies, donc ce qui rafraîchit nettement l'atmosphère, mais ce qui fait que parfois il y a des routes qui sont impraticables. Parce que souvent c'est soit t'as la route principale qui est blindée de camions, des camions qui n'ont rien à foutre des vélos et qui, là tu te fais peur quand même. Soit tu prends des routes parallèles plus dans la brousse qui sont très sympathiques, mais effectivement physiquement à vélo tu vas pas très vite quoi. C'est généralement la grosse averse pendant la saison des pluies en Afrique, c'est vers 15-16 heures, donc ça va, tu commences tôt et t'as quand même une bonne journée, mais c'est vrai qu'après la grosse averse, généralement la route elle est impraticable quoi.
C'est de la boue partout.
C'est ça. Donc bon bah, au pire tu t'arrêtes et puis ça fait des rencontres, etc. Mais c'est vrai qu'en en Afrique, c'est quand même un monde complètement différent. Et notamment, il y a aussi à prendre en compte l'attention que tu génères. Ça, c'était une des raisons pour lesquelles d'être à deux, c'était quand même vachement bien. Parce que, ben, en fait, t'es deux blancs sur des vélos. Donc déjà, il y a des villages... Enfin, je veux dire, quand les touristes viennent en Afrique, ou dans d'autres pays d'ailleurs, mais ils vont voir des points particuliers. Donc ils vont au Chute Victoria, ils vont là, machin, ou dans les villes, ou, enfin voilà. Mais ils vont pas s'arrêter dans un village lambda juste pour s'arrêter. Alors qu'à vélo, tu es obligé, puisque tu vas faire, je sais pas, 80 ou 100 km par jour, mais du coup, tu vas être obligé de t'arrêter dans les villages. Et voilà, donc du coup, tu vas générer une attention quand même, où bah ouais, ok, donc là, il y a deux touristes qui sont à vélo, avec leur tente, et qui sont en train de monter leur tente, et donc des fois, tu la montes sous 30 yeux, ou quoi, et du coup, c'est quelque chose quand même qui rend le voyage très exotique, très marrant, et qu'il y a plein de choses à raconter du coup, il y a plein d'histoires drôles, et beaucoup plus qu'en Europe, mais des fois, c'est ultra fatigant, ouais. Parce que quand tu viens de passer 80 km, que t'as douillé, que la route, elle était mauvaise, que les camions ils t'ont passé à 2 mm de toi et que tu t'es fait peur et que bon là t'es arrivé, t'as envie de te poser, ouais. T'as envie de voilà juste de prendre du temps pour toi, de réaliser un peu ce que tu viens de vivre et en fait bah tu peux pas et en plus en Afrique c'est très c'est mal vu en fait d'être seul, donc même eux si t'es seul ils vont venir te voir être avec toi et te dire t'es pas seul, tu vois, on est là avec toi, c'est très gentil. Mais nous on n'a pas la même notion et du coup c'est vrai que là d'être à deux c'est au moins l'attention elle est quand même elle est répartie sur deux personnes. J'ai entendu quand même pas mal de ce que je connais du coup des femmes qui ont fait l'Afrique seule et en fait souvent en tant que touriste européen seul sur ton vélo tu te vois un peu comme un je sais pas, comme un extraterrestre, ouais. Comme un étranger en fait, vraiment comme un étranger.
Et après, je pense que protéger plus.
Ouais. Ou... Et puis que tu sois femme ou homme, en fait, tu te vois juste comme un étranger, t'es okay. quelqu'un de bizarre. Quand même, t'es avec un, tu voyages à vélo, qu'est-ce que tu fous Et donc du coup, ouais, je pense que c'est plus ce truc d'étranger qui vient avant de te dire, ah bah c'est genre. Une femme ou un homme. Alors après, bon, t'as des mecs relous, hein, mais t'as des mecs relous partout, hein, oui. quand je vais à Paris. Oui. Et puis des fois, ça les empêche pas. Moi, qui étais même avec Martin, on pédale pas forcément côte à côte. Et puis t'as quand même beaucoup de cyclistes. Hein, en Afrique, hein, des locaux qui sont avec leur vélo et donc ils pédalent à côté de toi. Et t'as toujours quand même des relous, hein, qui, même si tu leur dis oui, il y a mon mari derrière, ou mon mari qui arrive, oui, ils peuvent quand même insister. Donc forcément, ça peut un peu les dissuader, mais c'est plus sur cette attention que tu génères et aussi le dépaysement culturel. Parce que du coup, c'est vrai que tu pourrais te sentir, je pense, assez seule parce que t'es entourée, d'accord, tout le temps par des locaux, des habitants. Mais c'est vrai que bah, les conversations, elles sont limitées, souvent à cause de la barrière de la langue. Ouais. Et puis, juste parfois, sur les préoccupations de la vie qui sont quand même pas du tout les mêmes, quoi. Ouais. C'est que leurs préoccupations là-bas, c'est, ouais, ok, bah, il y a le puits, mais le puits, il y a de l'eau entre telle heure et telle heure. Il va y avoir toutes les femmes, parce que c'est que des femmes qui vont au puits, qui vont faire la queue, donc il faut que j'y aille maintenant. Enfin, c'est pas du tout les mêmes préoccupations, donc forcément, la conversation là-dessus est limitée. Donc tu pourrais te sentir quand même bien assez seule et
il y a pas d'autres touristes quoi j'imagine
pas ben non enfin c'est voilà vrai. Les touristes tu les vois effectivement dans les zones touristiques dans les grandes villes etc mais dès que t'es dans les villages c'est fini et c'est ce qui est aussi incroyable hein, et ce qui fait que le voyage il est absolument génial c'est que tu vas à la rencontre de personnes que les touristes ne rencontrent pas donc c'est ce qui fait que le voyage en Afrique a quand même enfin une dimension enfin pour moi c'était quand même une aventure plus comparée à l'Europe quoi. En Afrique, je pense encore plus le contraste entre maintenant les grandes capitales qui commencent à être un peu, tu vois, la classe moyenne qui commence à consommer, t'as un peu des centres commerciaux, des fast-food etc. Et donc il y a un tel contraste entre cette société de consommation dans les grandes villes et les villages, bah du coup ouais, enfin concrètement, ils vont encore au puits ou à la pompe. Ils ont, la plupart n'ont pas l'eau courante. Manger, ben oui, généralement, c'est que du riz, enchima ou des trucs, enfin des racines, enfin des trucs qui mangent toujours la même chose, quoi. Et donc ce contraste, il est quand même assez choquant. Et à vélo, tu le vois bien. Et bon, toi, t'es quand même plus content d'aller dans les villages que dans les grandes villes ouais. où le trafic est insupportable et où c'est complètement impersonnel et où les gens font pas attention à toi, quoi. C'est pas même en compte.
C'est quoi ton meilleur souvenir de cette aventure ?
Celui que je raconte souvent, c'est pas le meilleur sur le moment, mais c'est quand même celui qui restera le plus. On est parti donc du Kenya et on voulait aller au sud, mais en faisant un petit détour par l'Ouganda notamment par un parc national, le Queen Elizabeth. Dans lequel en fait t'es autorisé de pédaler à vélo, enfin d'être à vélo,
d'accord.
de le traverser, ce qui nous paraissait être une expérience complètement folle. On s'est dit mais en fait t'es dans un parc national avec des animaux à vélo,
ah oui,
mais
c'est génial. Éléphants, girafes, panthères même.
Panthères. Non mais il y a des félins, il y a des lions, tout ça. Et du coup donc on a fait quand même un détour assez important pour aller jusqu'à ce parc national. Il faut savoir qu'on peut le faire à vélo sur deux routes seulement. Donc voilà, on rentre par la première route dans le parc national. T'as aucune indication sur comment se comporter face à des animaux sauvages, sachant que tu es sur un vélo et que rien ne te protège. Donc on était un peu étonnés. Enfin bon, il y a pas de barrière, il y a rien. Enfin il y a juste écrit bienvenue au parc national quoi. Au début t'es sur cette route goudronnée où il y a encore des voitures, des camions. En fait c'est une route publique qui juste traverse ce parc. Donc là ça va, on est on voit un peu, on voit des buffles, hein, des girafes, machin, tout se passe bien. Mais bon, on n'est pas très rassurés. Et ensuite, on prend... En fait, cette route-là coupe le parc sur 40 km. Et en fait, il y en a une qui est beaucoup plus longue et qui va dans la largeur et qui fait 90 km qu'on a décidé de prendre. Et donc, on tourne à droite pour quitter cette route et être sur un petit chemin de terre. Avec cette fois-ci, vraiment, c'est pas du tout une route. C'est vraiment, il y a la place de faire passer une voiture, mais il y a plus du tout de goudron. Et en fait, surtout la végétation est quand même très imposante, très oppressante, et tu vois pas du tout ce qui vient de loin, quoi. Alors que sur la route principale, ça allait. Donc là, on se dit, bon, bah, ok, c'est encore pire, c'est pas grave, on fait quelques kilomètres, et là, on voit des éléphants un peu au loin, là, qui traversent. On se dit, ah, c'est génial, super, on oublie tous les soucis, on est excités, alors on pédale super vite pour aller les voir, parce qu'ils étaient quand même un peu au loin. Et du coup, pendant qu'on pédale, Martin pédale un peu plus vite que moi, et il passe à côté, sur notre droite, d'un groupe d'éléphants, qu'il n'a pas vu, en fait, qui sont à 5 mètres de nous. Du coup, je me dis, oh merde, tiens, il les voit pas, il est juste à côté d'eux.
Et tu veux pas crier, quoi.
Non, donc je suis sûre, je dis, Martin, mais forcément, il ne m'entend pas. Et du coup, je panique un peu, et je veux le prévenir, à tout prix, dans ma tête. Et du coup, je fais sonner ma sonnette. Alors que moi, j'ai continué à pédaler aussi, que je me retrouve à côté d'un éléphant que j'avais pas vu non plus, et je sonne ma sonnette, quoi. Et du coup, j'ai rejoint Martin, on est tous les deux presque côte à côte, et il y a cet éléphant-là qui est vraiment à deux bras, qui se retourne, la trompe, et qui nous fait un son, mais qui crie, quoi. Là, je perds tous mes moyens, je suis toute blanche, je pense. Et je dis à Martin, je crois qu'il est en train de nous charger, là. Bah, on fonce, quoi, à vélo, avec l'éléphant qui nous court après. Seulement sur quelques mètres, hein, parce qu'il faut savoir qu'on a lu après qu'un éléphant court jusqu'à 40 km/h, donc honnêtement, s'il voulait nous avoir, il nous aurait vraiment eu. Je pense que juste là, il a voulu nous impressionner, ce qui a très très bien marché. Du coup, on est parti à toute allure. Et il s'est arrêté, heureusement. Et du coup, on a pris une décision radicale de faire demi-tour.
Ah ouais.
Parce que 90... Alors, on avait fait à peu près 5 km. Hein. Donc, pour en faire 90 comme ça, une fois que t'es au milieu de tout ça, tu peux plus faire demi-tour. On s'est dit, c'est le moment ou jamais. Et donc, on a fait demi-tour et on a laissé passer 4 ou 5 groupes d'éléphants qui faisaient que traverser. Enfin, c'était infesté de partout. Et,
ça doit être majestueux et en même temps tellement...
Au retour, on était terrorisés, mais on était aussi émerveillés de voir... Du coup, là, on savait quoi faire. On s'arrêtait, on chuchotait, là, on laisse passer, ok. Puis là, on est passé. Et puis, un et deux, puis ces fois, c'était des groupes de 10, quoi. Enfin, c'était incroyable.
Et donc, du coup, tu te tais, tu dis rien, tu bouges pas. Et...
Voilà, tu les laisses passer, tu t'attends qu'ils passent bien. Et puis après, tu continues. Et donc, Martin regardait à gauche, moi à droite, et on guettait bien. Parce qu'en fait, ils sont quand même ultra discrets. Et puis, avec toute cette végétation, tu les vois vraiment pas arriver. Et du coup, après, on est arrivé sur la route principale, avec les camions, les voitures, on est là...
Des camions.
Gros, voilà, c'est ça. Pour une fois qu'on était contents de voir cette civilisation, etc. Mais... Enfin, au final, c'était juste énorme de se dire qu'on a fait tous des tours pour faire ce parc national qu'on a fait juste sur une demi-journée, qu'il nous est arrivé un truc et qu'on est parti en courant. Et puis bon, au final, ça a fini en étant une histoire assez drôle et qu'on raconte un peu partout. Après, il faut savoir que l'éléphant, c'est quand même un animal dangereux et qu'il y a quand même beaucoup d'accidents, et plus qu'avec les lions ou autres félins, parce que ce sont des animaux qui chassent la nuit. Donc tu les vois moins, et l'éléphant, en fait, il aime pas être dérangé dans sa zone de confort, chose qu'on ne savait pas. Donc en fait, si tu te retrouves près d'un éléphant que tu l'as pas vu et que t'avais pas vu, mais juste tu te tais, et en fait si lui se rapproche de toi, c'est pas grave parce que c'est lui qui a décidé de le faire. Mais si toi tu es trop proche de lui et que tu as en fait cassé cette zone de confort, non.
Vous êtes fait poursuivre par un éléphant.
Ouais, c'est ça. C'est les mondes de l'Afrique.
En vélo.
En vélo, voilà.
Ça, c'est ouf. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans une aventure comme ça?
Le conseil que c'est possible. Honnêtement, moi, je suis partie, je savais pas changer une roue crevée. Un pneu comme un pneu crevé. Donc j'avais aucune connaissance mécanique, ça m'intéressait pas du tout. J'avais regardé quelques tutos machin, mais clairement je savais pas le faire. Je suis partie avec un VTC, donc c'était un truc. Je l'ai acheté neuf, donc il m'a quand même coûté 400 €, mais en soi c'était quand même pas un investissement. Comparé à un billet d'avion ou quoi, c'est rien. Et donc il m'a juste suffi d'un VTC à 400 €, de sacoche de chez Decathlon et d'un sac de couchage, une tente. Pour ensuite parcourir pendant un an tous ces pays et 20 000 km et ce vélo a tenu en Afrique aussi parce que souvent on me pose la question de si j'avais changé de vélo pour l'Afrique, mais non, en fait il suffit qu'il soit un peu robuste, hein, faut pas partir sur un truc un peu trop léger parce qu'effectivement ça va prendre des coups, donc mais il a pas besoin d'être un truc sophistiqué, un truc qui coûte 1 000-2 000 €. Et juste, enfin, c'est facile en fait, et vraiment à vélo plus que tout, je pense que c'est dans la tête, et je pense que la dimension, c'est souvent la dimension physique qui freine les gens. Effectivement, sur le papier, on se dit, putain, mais 20 000 km, c'est ouf. Mais en fait, non, si t'en fais 50 tous les jours, moi, j'en fais un peu plus, mais voilà, le calcul, il est vite fait. C'est juste si t'as le temps.
Ouais.
Ça se fait très, très bien, quoi. Et puis, c'est à ton rythme. Et vraiment, enfin, moi, c'est vraiment une façon de voyager qui vraiment t'oblige, en fait, à aller vers les autres, à être hors des sentiers battus, en fait. Parce que même si tu vas suivre un itinéraire que tout le monde suit, je sais pas, enfin, je connais pas les itinéraires très prisés, mais même si t'es sur cet itinéraire-là, toi, tu vas t'arrêter entre le point A et le point B.
Ouais.
Tu vas être obligé. Et même juste pour aller demander de l'eau, pour aller demander de l'aide, pour dormir, tu vas être obligé. Et du coup, c'est juste... Enfin, pour moi, c'est une façon incroyable de voyager et qui fait des rencontres... Et en fait, c'est du coup le conseil, c'est que c'est juste, c'est facile, quoi. Et après, je dis pas que c'est pour tout le monde, parce que bah oui. Si toi ça te tente pas, bah ça sert à rien de le faire. Enfin, c'est juste voilà.
Bien sûr, faut avoir l'envie.
Ouais.
Et du coup, c'est quoi tes... Parce que là, t'es rentrée du coup il y a un an. Mm-hmm. T'as écrit un livre. Ouais. On n'a pas parlé de ça, mais du coup, t'as écrit un livre pour retracer tout ton itinéraire.
Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment ce qui m'a maintenue, ce qui m'a, je sais, qui a fait que le retour après ce voyage n'était pas aussi compliqué que après l'Australie. Parce que au moins, ok, j'étais à Paris, je me dis bon merde, je suis encore à Paris. Mais en fait, d'écrire un livre, bah forcément, j'étais plongée dans les souvenirs. J'avais mon carnet de voyage, j'avais les photos. Donc déjà pour retranscrire tout ça, ça m'a beaucoup aidée en fait, parce que bah comme Paris, j'aime pas vraiment. Bah mon temps libre, je sais pas trop comment l'occuper. Enfin, j'ai pas de passion ici. Et du coup, bah je passais tout mon temps libre à écrire ce livre. Et il y a aussi en fait ce besoin de raconter parce que forcément on me raconte on me demande quel est ton meilleur souvenir, quel est ton pire, quel est le machin. Ok, tu racontes 2-3 anecdotes, mais tu racontes jamais tout ce qui s'est passé parce que bah forcément ça prendrait des heures et personne n'a envie de l'écouter. Et moi j'ai pas envie de le raconter comme ça. Et du coup c'est vrai que le livre c'était venu un peu comme ça, juste un peu naturellement et du coup voilà, même si ça va pas être le best-seller de l'année, ça m'a vraiment aidée. Et de me dire, bah au moins je suis à Paris, j'ai un projet et qui est en rapport avec mon voyage et je vais tirer quelque chose de ce voyage et en faire un livre. Et du coup c'était une autre expérience du coup, mais qui voilà, qui m'a vraiment aidée.
Et puis c'est noir sur blanc quoi, à vie t'auras ce souvenir de,
c'est ça, que je vais pouvoir tenir dans mes mains et me dire bah voilà, maintenant ce sera toujours là. Et et vraiment c'est quelque chose qui m'a ouvert des portes et qui ont, en fait, je fais aussi des petites présentations sur Paris de mon voyage, dans des lieux, etc.
Trop bien.
Et puis, jusque-là, dans des lieux qui m'avaient appelé, en fait. Et maintenant, comme mon livre arrive là dans une semaine, et ben, j'ai démarché, moi, des lieux que j'aime bien, etc., pour faire ces petites présentations et un peu promouvoir ce livre parce que, ben, je me suis auto-éditée et que j'ai aucune, je suis pas dans les librairies, j'ai aucune promotion, ce qui pourrait venir, en fait, d'une maison d'édition, mais que j'ai même pas choisi, j'ai même pas cherché, en fait. Et du coup, bah, c'est à moi un peu d'aller le mettre en avant. Et du coup, bah, au moins, ça, c'est bien, ça me ramène toujours à... En fait, je suis à Paris, mais avec encore un peu ma tête dans le voyage et un peu un pied dedans. Alors qu'après l'Australie, j'étais vraiment... je suis rentrée à Paris, j'ai les deux pieds dans Paris. J'ai l'impression que bah, le voyage, c'était juste un rêve qui s'est terminé. Je me suis réveillée.
C'était une parenthèse, quoi.
C'est ça, et je viens de me réveiller. Et puis, bah, ça fait mal, en fait, parce que là... je suis plus du tout dans le rêve et c'était trop dur. Alors que après l'Afrique, j'étais encore un peu là-bas et en étant ici, quoi.
J'ai une dernière question. Donc le podcast s'appelle De vraie vie. Du coup, ça t'évoque quoi, la vraie vie?
J'avais pas mal réfléchi parce que c'est une question difficile, je trouve. Hein, et je dirais que c'est une vie qui a du sens. Parce que effectivement souvent par exemple en Afrique on se dit ah les pauvres ils ont pas d'argent, ils vont au puits machin etc, mais enfin s'ils continuent à vivre, alors déjà c'est parce qu'ils sont heureux, parce que déjà t'as pas besoin de tout ce qu'on a ici pour être heureux, ils sont des fois même plus heureux en Afrique et c'est beau à voir. Et je pense que s'ils continuent à le faire, c'est juste que ça a du sens pour eux, quoi. Que bah ils le font pour leur famille, pour leur communauté, etc. Et que bah par exemple moi, travailler, avoir un travail de façon traditionnelle, d'avoir une maison et d'être posée, ça, pour moi là, ça me va pas. Mais si pour d'autres personnes ça a du sens et que ils savent pourquoi ils se lèvent tous les matins et que bah ce travail je l'aime et que de toute façon j'ai envie de travailler pour m'offrir cette maison parce que j'ai envie d'avoir mon chez moi. Et bah c'est très bien, quoi. Enfin, au final c'est un peu chacun sa vie, mais juste s'y retrouver et savoir pourquoi on le fait, mais surtout savoir pourquoi on le fait pour soi-même, en fait. De toute façon la vraie vie, je pense que c'est aussi quelque chose qui se ressent, en fait, une fois qu'on l'a trouvé. Et moi je me dis bah voilà, là c'est comme ça que je me sens bien, en me disant que bah ok je rentre mais pour repartir et avoir d'autres projets. Et je suis mes envies à moi et mes rêves et je passe des autres, et même si ça va à l'encontre de ce que tout le monde fait, et ben c'est pas grave, je le fais quand même.
Merci beaucoup, Tiffany.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode de De Vraie Vie. J'espère qu'il vous aura grandement inspiré et aidé dans votre propre processus. Si vous avez aimé l'épisode, laissez-moi un commentaire sur iTunes et abonnez-vous pour ne pas louper les prochains. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, @devraievie, mais aussi Twitter ou Facebook. À très vite !